rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Aujourd'hui, Aurore, Frédéric et moi-même allons vous parler de livres et de films que nous avons particulièrement aimés, en espérant que vous les apprécierez autant que nous. Nous commencerons avec un policier, Le Seigneur des Écorchés de Luc à l'envers. Nous enchaînerons avec quatre romans, La Surprise du Chef de Joseph Massé-Scarron, Des Lendemains qui chantent d'Alexia Strezzi, de Clara Lee Proust de Stéphane Carlier et enfin Apprendre ou à laisser de Lionel Shriver. Puis un roman de fantaisie, L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein. Et enfin, nous terminerons avec trois recommandations de films que nous venons de recevoir en DVD. El Buen Patron, Annie Colère et Le Visiteur du Futur. Mais avant d'entamer cet alléchant programme, nous allons parler d'un événement qui aura lieu les 17 et 18 juin prochains dans le cloître de la bibliothèque Saint-Corneille, le 3e salon Books Feel Good. Et pour en parler, qui de mieux que sa créatrice, Marie-Pierre Degage, que nous avons la chance de recevoir dans le studio aujourd'hui. Marie-Pierre, peux-tu nous présenter ce fameux salon ?
Alors bonjour, alors oui, nous organisons la 3e édition du salon Books Feel Good à Compiègne, dans le cloître de la bibliothèque. C'est un événement donc, qui aura lieu le 17-18 juin, on attend plus de 50 auteurs là maintenant, parce qu'on a encore des auteurs qui se sont inscrits dernièrement, et c'est un événement qu'on espère... avec beaucoup de chaleur, de bienveillance, parce qu'on invite des auteurs de romans contemporains, des auteurs de romans initiatiques et de développement personnel. Tout ça dans une ambiance très feel good.
Ah, c'est chouette. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau par rapport aux années précédentes ?
Alors, chaque année, on essaye un petit peu de faire des nouveautés. Donc, cette année, on va avoir trois ateliers qui auront lieu donc, le samedi et le dimanche. Il va y avoir un atelier sur l'énéagramme avec Véronique Massier-Jacques. On va avoir un atelier aussi sur le pouvoir de l'intuition avec Gaël Piton et Saverio Tamzello. Et aussi un autre atelier, comment construire une carte de mantra avec une sophrologue, Laurence Roufouillet.
Bah, super programme. Et est-ce qu'il y aura aussi donc une randonnée, du yoga, de la musique ?
Alors on met toujours un petit peu de sport dans nos événements puisque c'est quand même notre ADN. Donc bon, il y aura des dédicaces bien sûr avec les auteurs, il y aura des conférences et il y aura donc du sport aussi, enfin de l'activité physique. Le dimanche matin, on organise donc deux bains de forêt, un qui est animé par la sophrologue Cathy de Quesel de Clairoy. Un autre qui est animé pendant 3 heures, donc par du château de Compiègne, par Alain Lancelot, qui est sophrologue et qui habite en Chine, et qui est aussi écrivain, et qui a fait un super bouquin sur les chemins de la reconnexion. Et il y aura une marche nordique, animée par François, plus dans le cadre plutôt sport santé, initiation, et une randonnée gourmande de 8 km, qui partira donc du cloître de la bibliothèque à 10h, et qui vous emmène un petit peu en centre-ville, puis en forêt, avec au kilomètre 4, vous allez avoir la joie de retrouver Loïc, qui tenait la liberté d'expresso avec son frère et qui s'est lancé dans la confection de donuts maison et que j'ai eu la chance de goûter à Paris il y a 15 jours et qui sont excellents. Il vous fera goûter les donuts. Et puis nous avons aussi comme partenaire Léodinas qui nous prépare des petits cookies maison et il y aura d'autres surprises à déguster au 4e kilomètre pour redonner un petit coup de boost jusqu'à l'arrivée au cloître de la bibliothèque.
Wow, superbe. Eh ben, on a hâte. Ça va être encore génial, ce salon. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'être venue nous en parler et d'organiser ce bel événement dans notre ville.
Merci à vous. C'est un réel plaisir et on espère vraiment qu'il y aura du monde pour venir nous rendre visite aux auteurs et partager ce super moment avec nous. Merci beaucoup.
Eh bien, après, la randonnée gourmande m'a donné très faim, je dois avouer. Mais bon, on est plutôt sur l'heure de l'apéro, là. Eh bien, je vais vous présenter un livre, un polar, qui s'appelle Le Seigneur des Écorchés, de Luc à l'envers. Alors, la dernière fois que je vous ai présenté un livre, je vous ai fait voyager jusqu'à la Nouvelle-Orléans, aujourd'hui, on va descendre un petit peu plus bas encore sur la carte, jusqu'au Mexique, péninsule du Yucatan, avec donc le polar noir de Luc à l'envers, le seigneur des écorchés. Plusieurs destins vont s'y croiser, celui d'un luchador dont la renommée n'est plus à faire, ceux d'un couple de Françaises venues en vacances, d'une famille de Honduriennes en exil et de plusieurs locaux qui vivent secrètement au rythme des anciens Mayas. A priori, ces personnages n'ont rien à voir les uns avec les autres. Certains ont de l'argent, d'autres n'ont plus rien. Certains ont une renommée quand d'autres sont d'illustres inconnus. Et certains sont bien attentionnés quand d'autres encore... Luc à l'envers est un auteur isarien, du genre qu'on appelle polar noir. Il s'y passe donc de sombres choses. Et j'avoue que j'ai toujours voulu aller au Mexique, et au Yucatan particulièrement, pour plonger dans les eaux cristallines de l'océan, pour découvrir l'environnement naturel si spécifique des cénotes, pour grimper sur les anciennes pyramides mayas, contempler le temps et la jungle du haut de ces pierres rituelles. Bien sûr aussi goûter à leur tequila et autres enchiladas, qui sont leur spécialité. Eh bien, avec son roman, Luc à l'envers arrive à nous immerger à la fois dans la culture passée maya et dans le Mexique actuel. On longe les plages à la recherche d'une fête avec les deux Françaises, Jill et Chloé. On rend visite à un chaman qui nous fait goûter une décoction hallucinogène. On serpente dans la jungle et ses dangers en tremblotant auprès de la famille hondurienne de la jeune Maribel. On assiste à un match de lutte en oubliant le confort de notre canapé et en suant sur le ring avec Carlos El Sol Negro. Et tout en arpentant le Mexique et sa jungle, ses plages, ses sites archéologiques, on sent l'étau se resserrer autour de chacun de nos personnages que l'on suit depuis le début de l'histoire. Ce qu'on ne sait pas, c'est jusqu'à quel point cet étau va se resserrer. Les chapitres sont assez courts, on vogue d'un personnage à l'autre, ce qui rend le cheminement de l'histoire très addictif. On veut toujours connaître la suite, ce qui va arriver à l'un ou à l'autre, mais avant, il faut se replonger dans l'histoire d'un autre encore, puisque ça se succède. Les scènes, les paysages, les destins s'enchaînent avec rapidité et avec facilité. Quand l'histoire se termine, et je ne vous dirai pas comment, on en redemanderait bien encore un petit peu de Mexique et de Yucatan dans nos têtes. Cela dit, vu ce qui arrive à nos personnages, je me passerais bien de vivre ce genre d'aventure aussi noire que mystérieuse lors de mon prochain voyage. Car tout ce qui est décrit a l'air vraiment très réaliste. On se met facilement à la place des deux Françaises, par exemple. Alors mon conseil, à lire évidemment, mais seulement si vous ne comptez pas aller au Yucatan tout de suite. Hein. J'en profite aussi pour vous dire que Luc à l'envers a sorti un tout dernier roman récemment, et s'intitule « Neige vaudou », et j'avoue que je ne manquerai pas de le lire prochainement. Frédéric, je te laisse la parole.
Je vais vous parler de La surprise du chef de Joseph Massescaron. Donc, Joseph Massescaron est un journaliste et écrivain français, né en 1958. Il est aujourd'hui directeur adjoint de l'hebdomadaire Marianne, directeur mensuel du mensuel Le Magazine littéraire et producteur d'une émission de critique littéraire sur France Culture. Quelques mots d'histoire. Alors que les élections présidentielles approchent, le journaliste Benjamin Strada couvre l'actualité. Il voit progressivement les médias s'emballer et les sondages exploser pour un nouveau candidat, un militaire dont le seul programme politique est de restaurer l'autorité en France. Alors ce qui m'a plu dans ce livre, c'est sa clairvoyance, et parfois un peu surprenante, mais sans pitié. La surprise du chef parle de la campagne présidentielle de 2022. Son auteur y raconte l'affrontement de deux mondes. L'un politico-médiatique, prêt à tout poursuivre le candidat qui a le vent en poupe. L'autre, un candidat issu de l'armée qui se voit en sauveur. Bon, bien sûr, on a changé tous les noms pour l'histoire. Mais on reconnaît bien les partis en présence.
Merci Frédéric. Et alors, moi j'ai choisi un livre.
Culture des bibliothèques de Compiègne.
Excuse-moi Anne de t'avoir coupé le souffle.
Alors, moi j'ai choisi un livre que j'ai vraiment, vraiment adoré. Et j'espère que ça va être pareil pour vous. C'est « Des lendemains qui chantent » d'Alexia Strezzi, chez Flammarion. C'est le troisième roman de cet auteur, dont j'ai découvert ici l'énorme talent de conteuse. On fait la rencontre d'Elio Leone. On est en 1935 à Paris. C'est la première de Rigoletto à l'Opéra Comique. Et à la stupeur générale, il vole la vedette au ténor. Il a une voix extraordinaire, une voix d'or. À partir de là, on va remonter le temps. Jusqu'en 1912, c'est la naissance de notre héros, près de Naples. Il se retrouve aussitôt orphelin, puis abandonné au pied d'un orphelinat. D'institution en institution, plus ou moins bien traité, il va voyager à travers l'Italie, faire des rencontres déterminantes qui lui donneront le goût de la musique et du chant. Jusqu'à son arrivée à Paris, pour y fuir Mussolini et le fascisme, ainsi que pour y faire une carrière extraordinaire. Mais la Seconde Guerre mondiale va arriver et le mobiliser plusieurs années, mettant un terme à son ascension. La suite, je ne vais pas vous la révéler, mais elle va vous emmener de surprise en surprise, comme un vrai roman d'aventure. Dans un style très rythmé, une écriture vive et colorée, on parcourt 60 ans d'une existence, le destin exceptionnel d'un homme incroyablement généreux et humble, très attachant. C'est une fresque lumineuse qui raconte magnifiquement comment les rencontres peuvent façonner une vie. Elle nous fait revivre le faste d'une époque, avec les grands airs d'opéra en toile de fond. C'est un vibrant hommage à l'art lyrique, avec comme fil conducteur la passion, la transmission, l'amitié. C'est très romanesque et enchanteur, un très grand coup de cœur et une très bonne lecture pour cet été si vous allez sur la plage. Maintenant, on va faire une petite pause musicale et je vais vous présenter un auteur qui vient ce week-end à l'Imaginarium. C'est Winter Zuko, un rappeur à l'univers atypique qui surprend et impressionne avec son flow posé sur des instrus techno survitaminés. Il fait bouger les lignes du rap en associant rap et eurodance. Il a posé textes mélancoliques aux thématiques très personnelles comme le déracinement, la pauvreté, sur des instrus très dansantes. Un contraste fascinant entre ses prods entraînantes et des paroles sombres. C'est un style musical qui relève de l'hyperpop. Winter Zuko se voit dans cet album, intitulé 2036, comme un voyageur temporel qui retourne dans le passé, les années 2000, pour y récupérer les meilleurs artefacts. On va écouter l'excellent morceau « Trotsky ».
Chez Germain, je suis comme vache. J'attends l'hélico, je suis prêt. Je fais que de l'attendre sur le H. Je t'ai pas reconnu sous la crasse. T'es qu'un vampire devant la classe. Dans le passé, y'a pas la strasse. Façon zinc, y'a pas trop la place. On s'est connu dans la merde. Beaucoup de l'os qui vendent la verte. On va se donner jusqu'au bout. Je pense pas qu'on sortira de l'averse. Je pense pas que tu saches d'où je viens. Mon vécu zinc, c'est pas le tien. Trop de mauvaises news dans la tête. Une norme osade, pas de va-et-vient. Je suis dans le turf comme Valérien. Et je galère comme un galérien. Lunettes thermo sur le crâne. Je redave les missiles aériens. Je rêve pas de vivre en Amérique. On sera liés avant la mairie. Et depuis que le poteau il est dead, je comprends c'est quoi la vraie vie. Faut pas que je leur fasse confiance. C'est des vegans qui mangent la viande. Faut faire des sparring tous les dimanches pour être prêt s'ils brisent l'alliance. Quoi qu'il s'est passé, je veux l'effacer. Zinc, c'était mon broski. Dans les ténèbres, faut faire Pelec pour pas taille comme Trotsky. Je retourne dans le passé comme Taïdor. 2036, c'était trop hardcore. Désolé, je peux pas être comme elle. Je dors sans de ouf comme elle. Je me déteste de ouf comme elle. Je me sais des vies, faut que je vais skier tous ces motos sur la map. Troisième œil est resté ouvert toute la nuit. Zinc, c'est la base. Faut pas que j'oublie mes racines. Et je dois respecter la France. À la zone, mais c'est la crise. Pourtant, en été, jamais je danse. On va se déchirer comme un gang. Ça sera jamais comme avant. La vie, c'est dur. Trop de poids sur les épaules. Moi, je l'assume comme un grand. On a grandi dans la crise. La folie, rien qu'on la frise. Fais belle qui te serre la main. Or qu'il a les doigts dans la prise.
J'ai pas le temps vous pousser, j'avoue. Donc je réponds non, non. Dans la GLM, y'a des cafards. S'ils veulent venir, j'ai non, non. Dans le passé, ce qui s'est passé pour toi, je l'efface pas, non, non. Ça me demande pas si ça va. Vu que je suis honnête, j'dis non, non.
J'ai pas le tavon pour ces javons, donc je leur réponds non, non. Dans le HLM, y'a des cafards, si elle veut venir, je dis non, non. Dans le passé, ce qui s'est passé pour toi, je l'efface pas, non, non. Ça me demande pas si ça va, vu que je suis honnête, je dis non, non. J'ai pas le tavon pour ces javons, donc je leur réponds non, non. Dans le HLM, y'a des cafards, si elle veut venir, je dis non, non. Dans le passé, ce qui s'est passé pour toi, je l'efface pas, non, non. Ça me demande pas si ça va, vu que je suis honnête, je dis non, non.
Et maintenant, Frédéric va nous parler d'un roman de Stéphane Carlier.
C'est Clara Liproust. Alors, Stéphane Carlier, on ne le présente plus, c'est le fils de Guy Carlier, qui en est à son 8e roman. Donc, c'est Clara Di Proust qui est paru en septembre 2022. Proust, avant ce nom mythique, était pour elle comme certaines villes, Capri, Saint-Pétersbourg, où il était entendu qu'elle ne mettrait jamais les pieds. Clara est coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire. Son quotidien, c'est une patronne mélancolique, un copain beau comme un prince de Disney, un chat qui ne se laisse pas caresser. Le temps passe au rythme des histoires du salon et des tubes diffusés par Nostalgie, jusqu'au jour où Clara rencontre l'homme de sa vie, l'homme qui va changer sa vie, Marcel Proust. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, parce qu'il est tendre, ironique et attachant. C'est le récit d'une émancipation qui est aussi un formidable hommage au pouvoir des livres. C'est un roman qui situe la littérature que nous aimons comme geste de lien et de transmission. C'est un livre dont le sujet a tout son sens parmi notre belle communauté de lecteurs.
Merci Frédéric.
Alors moi j'ai choisi un roman américain, Apprendre ou à laisser, de Lionel Shriver. On est à Londres dans les années 90. Un couple de quinquagénaires se promet de ne pas finir séniles comme leurs parents. Ils concluent alors un pacte, celui de mettre fin à leurs jours quand ils auront 80 ans. Ainsi, ils échapperont à la souffrance et ne seront pas une charge pour la société. C'est le point de départ du roman de l'américaine Lionel Shriver. Car oui, c'est une femme. Elle a changé son prénom à l'âge de 15 ans pour un prénom masculin. Le titre anglais, Should We Stay or Should We Go? C'est une allusion directe au titre des Clash. Elle souligne sa volonté de porter une tonalité percutante à son roman avec un style tranchant et caustique. Car ce projet de couple suicidaire, il bat de l'aile à mesure que la date approche, le 29 mars 2020. Il pose des cas de conscience, d'abord parce qu'on est en plein mini-mélo du Brexit, et surtout parce que la pandémie du Covid fait son apparition. Et là, on perçoit toute l'ironie de la situation. Avec le confinement, si le couple meurt dans sa maison, personne ne les verra, ni ne le saura, avant un bon bout de temps. Et aussi, alors que toute la société se mobilise pour protéger les gens de leur âge, eux, de façon ingrate, planifient leur mise à mort. Et ainsi, à la date fatidique, rien ne se passe comme prévu. Mais l'auteur ne se contente pas d'une version. Elle va laisser libre cours à son imagination et échafauder au fil de 12 chapitres d'autres cas de figure, 12 scénarios différents pour ces deux héros vieillissants. Elle va alors explorer toutes les fins de vie possibles et d'une façon jubilatoire, même les plus improbables, allant de l'utopie à l'étonnante dystopie. On aura la maison de retraite de luxe, l'EHPAD semblable à une prison, la perte d'autonomie, la médecine miracle avec le rajeunissement éternel, la cryogénie, l'immortalité, la vieillesse ultra épanouie. C'est une forme brillante et très amusante qui regorge d'humour. Et si, bon, au niveau romanesque, elle a ses limites quand même, car ça peut être un peu lassant de retrouver à chaque fois nos personnages au même point de départ pour les voir évoluer différemment, c'est quand même une dissection de la vie décapante et tout à fait passionnante. À travers tous ces scénarios, Lionel Shriver pose de vraies questions, notamment notre rapport à la vieillesse, à la famille, à la mort, le sens de la vie et de sa fin. Elle nous parle de la dignité humaine et des progrès de la science et ses limites. Et surtout, elle observe finement, avec une grande acuité, la société et ses dysfonctionnements. Enfin, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la thématique du couple qui imprègne tout ce texte. Ces personnages qui veulent finir ensemble, comme ils ont vécu ensemble, sont profondément émouvants dans leur amour et leur fidélité. On va de nouveau faire une petite pause musicale, car on n'a pas résisté à vous faire écouter un autre artiste qui vient ce week-end à Imaginarium. Il sera là dimanche 28, mais à 1h05 du matin. C'est pour ceux qui se couchent tard quand même. Alors c'est The Caracal Project avec le titre « Journée de merde ».
Soaking in what there's left for me to to cry. He left the room on the fly, caught in the haze. I said, told him, a house of diamond in the sky. Already out of fucking tears, I spilled and dried. I can't see any clearer than the man in the mirror. Sky's getting light, better shut my eyes before I have another fucking breakdown. To cry, you left the room among the fly caught in the haze. I said, oh dear, I hold my diamond in the sky. Already out of fucking tears, I spilled and dried. I can't see any clearer than the man in the mirror. The sky's getting light, I better shut my eyes before I have another fucking breakdown.
Nous venons d'écouter The Caracal Project avec le titre « Journée de merde ». Nous sommes bien sur Graphite avec le rendez-vous culture des bibliothèques. Maintenant, on va passer à un roman de fantaisie avec Frédéric.
Oui. C'est l'épée, la famine et la peste par Aurélie Wellenstein. Aurélie Wellenstein est une autrice française principalement de récits de fantaisie. Elle n'est pas... Son premier roman paraît en 2013. En 2022, elle publie le premier tome de l'épée, la famine et la peste. Donc, et le deuxième tome est sorti en 2023. Quelques mots d'histoire. Depuis un demi-siècle, le royaume de Kong'ol s'enfonce dans un âge sombre. Les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans des toits d'araignées. Et les tarantas tissent dans l'esprit des hommes, les condamnant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires. Trois êtres brisés deviennent la cible d'une population aux abois. Un garçon possédé par l'esprit d'un loup, une jeune fille soupçonnée d'avoir les pouvoirs d'une araignée, un ancien soldat qui a tout perdu, persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf. Pourchassé par le chef de l'Inquisition et son archer, ils vont devoir s'allier pour survivre. Mais sont-ils des boucs émissaires ou au contraire trois redoutables fléaux qui porteront le coup de grâce à ce monde agonisant ? Ce que j'ai beaucoup aimé chez Aurélie Wellenstein, c'est qu'elle nous emmène dans un monde un peu particulier, sombre et oppressant, où le culte de l'Esprit Saint et de la Vierge étoile de la mer se dispute avec le culte de l'araignée. On pourrait d'ailleurs croire que le premier rassemble les gentils face aux méchantes araignées. Il n'en est pourtant rien, les deux ayant chacun une grande part d'ombre. L'intrigue ne manque pas d'action et d'aventure, ni de rebondissements. Les derniers combats sont époustouflants et impitoyables, d'autant qu'ils sont narrés de trois points de vue différents. Le tout nous est raconté de manière fluide et très agréable, en alternant les points de vue de nos trois amis. C'est souvent violent et noir, mais sans jamais tomber dans l'épouvante.
Merci Frédéric. On va passer avec des films maintenant. J'ai choisi trois films parmi tous les DVD que nous venons de recevoir à la bibliothèque. Donc le premier, c'est El Buen Patron de Fernando León de Ara Noah. Il nous fait suivre une semaine de la vie d'un chef d'entreprise en pleine dualité, faire le bien dans son intérêt à lui et celui de ses employés. C'est Blanco, joué par Javier Bardem. Il est directeur d'une usine de balance industrielle en Espagne. Il espère gagner un prix d'excellence remis par les autorités, alors même qu'il licencie et harcèle à tout va, mais il cherche à se faire passer pour un bon patron. À l'image des balances qu'il produit, son image de patron modèle va pourtant se dérégler. C'est une tragicomédie brillante, une comédie sociale grinçante, subtilement écrite, avec un scénario surprenant de bout en bout, et avec un Javier Bardem magistral. Ensuite, un film français, Annie Colère, de Blandine Lenoir. C'est Laure Calémy qui interprète Annie, une ouvrière mais mère de deux enfants. On est en février 1974 et parce qu'elle se retrouve enceinte accidentellement, elle découvre l'existence du MLAC qui va bouleverser sa vie. Le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Un mouvement solidaire et politique qui a largement contribué au changement de la loi sur l'avortement. Quelques mois avant que Simone Veil se batte pour faire évoluer cette loi. C'est très fort, réaliste, sans tomber dans le piège du documentaire, mais avec des scènes absolument bouleversantes. On y voit des femmes combattantes, des médecins qui prennent des risques, des avortements clandestins, qui sans jamais être choquants, nous font ressentir parfaitement toute l'entraide et la bienveillance, l'immense tendresse de ces personnages héroïques. Il nous permet de comprendre tout le chemin parcouru par les femmes. C'est un superbe film, très poignant, à voir et à conseiller. Et enfin, une comédie française qui pourrait passer inaperçue, donc j'avais envie de la mettre en valeur, Le Visiteur du Futur de François Descraques. C'est une série c'est un film très original et qui est adapté d'une série, d'une web-série du même auteur, donc 9 ans après la dernière saison. Et c'est une excellente comédie de science-fiction. La série, elle avait eu du succès entre 2009 et 2014, et elle a été dérivée en manga et en roman. Et le film, c'est un digne successeur de l'œuvre d'origine. Que vous soyez fan de la première heure ou simplement curieux d'une nouvelle comédie de science-fiction, vous y trouverez votre compte. On est en 2555. Dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la brigade temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. C'est alors une course contre la montre pour le visiteur du futur. Pour le reste, je vous laisse savourer cette aventure très très drôle dans un univers foisonnant et captivant.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Nous arrivons au terme de cette belle émission. Nous avons parlé aujourd'hui du Seigneur des Écorchés de Luc à l'envers, La Surprise du Chef de Joseph Massé-Scarron, Des Lendemains qui chantent d'Alexia Strezzi, Clara Liproust de Stéphane Carlier, Apprendre ou à laisser de Lionel Shriver, L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein, et enfin de trois films, El Buen Patron, Annie Colère et Le Visiteur du Futur. Le vendredi 9 juin, à la bibliothèque Saint-Corneille, il y aura une présentation du Festival des Forêts. Donc c'est à partir de 18h avec un apéritif musical. Ensuite, donc on en a parlé en début d'émission, le samedi 17 et dimanche 18 juin aura lieu le 3e salon Books Feel Good avec plein d'auteurs et de tables rondes et des dédicaces. C'est un salon très très sympa que je vous conseille de venir nombreux. Le prochain rendez-vous culture à la bibliothèque est le vendredi 16 juin. à 18h. La prochaine émission, le vendredi 23 juin, qui sera suivie d'une séance de Cinéclep avec le film Brooklyn de John Crowley. Et nous finirons le mois de juin, le 30 juin, avec un rendez-vous spécial série. En attendant, nous vous souhaitons un très très bon week-end.
Merci Anne, bon week-end à toi aussi.
Merci.